à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Les mots des livres. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h avec deux invités. Tout d'abord, Lauriane Bordenave pour son roman très documenté sur des femmes qui, pendant la guerre, ont eu une activité qui a permis d'aider les soldats. Ce titre, c'est Donut Girl, c'est sorti aux éditions Les Escales. Puis nous retrouvons Claire Lecoeuvre qui va nous parler d'un magnifique album dont elle est la scénariste, illustré par Chloé Ducolombier. C'est paru aux éditions du Ricochet et le titre, c'est Les Petits Renards. C'est un petit bijou. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de clairelecoeuvre.com ou sur le site des éditions du Ricochet pour en découvrir quelques extraits. Puis nous évoquerons les 80 ans du Petit Prince. Et oui, déjà 80 ans, beaucoup de choses vont se faire un peu partout en France autour de cet anniversaire. Mais avant cela, un peu de musique. On se retrouve juste après ça, tout de suite.
J'ai troqué mes cliques et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Et tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage. Tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal, tourne et tourne dans ma tête. Images du long métrage. Tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais.
BFM Radio, le média valdoisien.
Et nous retrouvons notre invitée Lauriane Bordenave, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre roman Donut Girl, paru aux éditions Les Escales. Avant d'évoquer ce titre, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots auprès de nos amis auditeurs? Car Donut Girl, si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas votre premier roman.
Non, effectivement, c'est le deuxième. Donc, je m'appelle Lauriane Bordenave, j'ai 44 ans. Je suis médecin anesthésiste en exercice à Paris et j'ai publié un premier roman d'autofiction aux éditions Lattès en 2020 qui s'appelle Les Cœurs Pleins et donc Donut Girl aux éditions Les Escales est mon deuxième roman.
Alors justement, Donut Girl, c'est une histoire des plus méconnues, et Dieu sait qu'on en parle de la Seconde Guerre mondiale, du débarquement, des GIs, de la résistance. Or, vous nous apprenez la petite histoire dans la grande histoire, celle de ces femmes, de ces Américaines qui vont, pour remonter le moral des troupes, participer auprès de la Croix-Rouge à la distribution, à l'accompagnement, à la compagnie des Américains, des troupes américaines. Alors comment vous êtes tombée, entre guillemets, sur cette histoire ?
Complètement par hasard, en fait. J'avais une sortie avec ma famille sur les plages du débarquement, et on avait un guide qui s'appelle Johan, qui est extraordinaire, et on est allé visiter le cimetière de Colville-sur-Mer, qui est un endroit très très beau situé au-dessus d'Omaha Beach. Et dans ce cimetière, il y a évidemment des milliers de soldats enterrés, et quand Johan nous a parlé de ces soldats, j'ai demandé un peu malicieusement s'il y avait des femmes enterrées dans le cimetière, et il m'a dit qu'effectivement il y avait 4 femmes dans ce cimetière militaire américain, et que l'une d'entre elles était une Donut Girl. Et j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus. Il m'a raconté une histoire un peu vague sur une femme qui serait allée en boulangerie demander des donuts pour remonter le moral de ses troupes. Bon, et je suis un peu restée sur ma faim après cette demi-anecdote. Et donc, en rentrant chez moi, j'ai cherché sur Internet, dans le moteur de recherche Google, j'ai cherché Donut Girl, Seconde Guerre mondiale. Et je suis tombée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, non pas sur une anecdote, une femme, mais sur un système très organisé de la Croix-Rouge américaine, conjointement avec l'armée, de centaines de femmes qui ont été recrutées pour remonter le moral des troupes. Et on va peut-être discuter ensemble comment.
Alors justement, votre héroïne, elle s'appelle Jen. Parlez-nous de cette très jeune femme, j'ai envie de dire, parce que on se dit que à son âge, on ne pense pas aller sur le front.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est toujours un peu difficile de se mettre à la place d'eux, parce que c'est des contextes qu'on ne connaît pas forcément. Mais Jane, dans le roman, a 25 ans. Elle vit à Milwaukee, aux États-Unis. Et la guerre a été déclarée par les États-Unis en 41 après l'attaque de Pearl Harbor. Et en fait, l'ambiance aux États-Unis à ce moment-là, c'est vraiment une opinion publique qui est pour défendre cette cause. L'industrie s'est beaucoup modifiée pour produire du matériel de guerre, des munitions, des bateaux, des moteurs, etc. Les femmes participent à cet effort de guerre, et il y a un vrai patriotisme à ce niveau-là. Et donc Jane va se porter volontaire, être recrutée après un processus de sélection assez exigeant, et elle va être formée à Washington pendant plusieurs semaines avant d'embarquer sur un grand bateau avec les troupes jusqu'en Grande-Bretagne, où elles vont ces femmes de la Croix-Rouge vont s'établir principalement à Londres et alentour toute la période, donc plusieurs années, plusieurs mois au minimum, avant le débarquement en Normandie.
Alors, on imagine, c'est à la fois exaltant quand on est une jeune Américaine, une jeune femme, venir en Europe. Or, c'est aussi très effrayant, parce que on se retrouve parmi des hommes qui sont prêts à aller au combat, dans un pays quand même avec une culture un peu différente. Hein. La Grande-Bretagne, c'est pas les États-Unis de ces années 40. C'est aussi tout un contexte. Cette jeune Jen, c'est pas si évident que ça. Hein. Cette nouvelle vie.
Vous avez raison, mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire que dans les contextes exceptionnels de guerre, d'épidémie, etc., il y a quand même un grand courage et une grande exaltation de la part des hommes et des femmes. Et c'est vrai que je crois que les femmes étaient très, très aventurières et très désireuses de servir leur pays et d'aller vers l'inconnu. Et cet inconnu, c'était l'Europe, effectivement, avec une culture très différente et du danger, potentiellement, bien sûr, même si ces femmes n'étaient pas immédiatement sur le front. Il y avait
des bombardements
qui pleuvaient sur Londres. Il y avait énormément de dangers à braver.
Alors justement, vous mettez de nombreuses notes. Là encore, rappelez-nous, vous avez été retrouver ces informations auprès de bibliothèques de l'armée, auprès de témoignages de...
Pas tellement, en fait, parce que à vrai dire, ces femmes de la Croix-Rouge, elles ont été beaucoup photographiées. Donc il y a quand même beaucoup d'iconographie sur Internet. C'était très clairement un outil de propagande américaine pour la guerre, mais elles n'ont pas été tellement racontées. Donc il y a peu de témoignages, peu de récits. L'idée d'ailleurs d'en faire un roman, puisque dans le roman, l'imaginaire a toute sa place. Et donc on peut, en s'appuyant sur quelques récits, et beaucoup de photographies, et fort aussi de tout ce qu'on connaît sur cette période, bien évidemment, créer une histoire, un destin qui se veut le reflet de la trajectoire de ces femmes à ce moment-là.
Alors justement, c'est ça qui est incroyable, c'est que ces femmes, elles étaient évidemment bien reçues par les troupes américaines, car c'était... cette culture américaine qui les suivait avec de la danse, enfin de la compagnie auprès de ces jeunes hommes qui aussi avaient quitté leur foyer, leur pays du jour au lendemain en imaginant que demain pouvait être le dernier jour de leur vie.
Oui. Alors, c'est vrai que si on rentre un peu dans le vif du sujet pour les gens qui nous écoutent, ces femmes, on leur a confié des grands bus dans lesquels on a installé des machines à baigner automatisées qu'on avait fait venir d'Amérique dans les cales des bateaux, des grands thermos de café, un tourne-disque et effectivement aussi du matériel pour regarder des films. Et donc, avec leur bus, elles sillonnaient les bases, elles allaient de base en base, rencontrer les troupes, offrir un beignet, un café, des cigarettes, des chewing-gums, mettre de la musique, danser avec les soldats. Donc il y avait quelque chose effectivement de très populaire. Elles avaient un peu un rôle de cheerleader. Mais ce qui est remarquable en fait, c'est que ces femmes, elles étaient extrêmement respectées par leurs gars. C'était les sœurs, les mères, les petites amies. Et c'était pas du tout des filles à soldats comme on peut en trouver dans l'histoire à certains moments de la guerre et notamment de la Seconde Guerre mondiale.
Oui,
elles avaient vraiment un rôle de consolation. Ouais.
Un peu comme les marraines pendant la Première Guerre mondiale.
Oui, un petit peu. Oui, tout à fait. Exactement.
Alors, évidemment, notre jeune Jen, il va lui arriver plusieurs aventures, entre guillemets, c'est-à-dire on va découvrir donc son arrivée en Europe et en Angleterre, mais pas que. Et évidemment, vous distillez comme tout bon roman, un peu de romance.
Un peu d'amour, mais bien
oui.
sûr.
Parce que aussi, c'est aussi l'idée qu'on se dit que quand on est jeune et qu'on se dit que demain, peut-être on ne sera plus là, il faut vivre à fond.
Oui. Oui, bien sûr. Je crois que c'était des jeunes hommes, c'était des jeunes femmes, et ils faisaient face ensemble à la guerre, à l'adversité, à la privation de chauffage, de nourriture, de sommeil. Et donc, évidemment, ils étaient proches. Et donc, évidemment, c'est un contexte idéal pour être amoureux, parce que l'amour fait partie du lien, de la vie. Et donc, effectivement, Jane va rencontrer un grand amour. Je vais éviter de divulguer davantage.
Mais il en est question aussi dans le roman, parce que ce n'est pas un documentaire dans l'esprit où vous ne nous racontez pas le quotidien seulement de ces femmes, dont Jane, mais on voit aussi ses amitiés, ses mésaventures, ses rencontres qui peuvent donner lieu à des anecdotes qui vont les suivre. On suit comme ça la vie d'une jeune femme dans ses années 40, en plein sous les bombardements de Londres, et on découvre que oui, ça peut aussi amener à de belles rencontres, à des amours. Et c'est évidemment, ça donne l'idée d'une adaptation peut-être sur petit ou grand écran. Est-ce que vous avez été approché pour cela?
Pas encore, mais j'espère que ça viendra, parce que c'est vrai que c'est très cinématographique. Ce que vous dites, c'est très important, c'est que au cours de mes recherches, j'ai découvert quel était le Londres avant le débarquement. C'est vrai que c'est un pan de l'histoire qu'on n'a pas forcément en tête quand on a étudié l'histoire à l'école en France, mais à Londres, avant le débarquement, il y avait tout le monde. Il y avait les Américains, les Anglais, les Français libres, les Canadiens et d'autres, beaucoup d'autres nationalités. Et toutes ces personnes se préparaient au débarquement et vivaient ensemble au sein d'infrastructures. Il y avait énormément de clubs où les gens mangeaient, partageaient un repas, jouaient aux échecs, dansaient, etc. Et donc j'ai été, moi, assez émerveillée par cette vie bouillonnante, cette joie aussi qu'ils avaient d'être ensemble avant le D-Day. Et donc j'imagine évidemment que ça serait un très joli film.
Et vous rappelez aussi quelques autres petites histoires dans la grande histoire, le fait qu'il n'y avait pas de mixité entre les soldats noirs et les soldats blancs américains.
Oui. Oui, absolument. C'était une époque où il y avait toujours de la ségrégation. Il y avait des casernes de soldats blancs, des casernes de soldats noirs. Les soldats noirs n'avaient pas le même rôle dans l'armée américaine que les soldats blancs. C'était en général des soldats qui n'étaient pas armés, qui n'allaient pas au combat ou peu. En revanche, c'était des soldats qui faisaient beaucoup de tâches de cuisine, de manutention, de blanchisserie. C'était un peu les boys de l'armée, hein, si on essaye de grossir le trait. Les femmes, les Donut Girls, les femmes de la Croix-Rouge, allaient beaucoup sur les bases blanches et un petit peu sur les bases noires. Et la ségrégation était telle, pour vous donner une petite anecdote, et là je remets un petit peu ma casquette de médecin, c'est qu'au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que quand il fallait donner du sang à un soldat qui saignait, qui faisait une hémorragie sur le champ de bataille, on pouvait pas donner du sang d'un soldat noir à un soldat blanc. Donc c'était pour vous dire jusqu'où allait la ségrégation à cette époque-là.
En effet, oui, ça fait ça glace sachant ça, et on se dit depuis beaucoup de choses ont changé, pas forcément partout pour tout le monde, parce qu'on sait qu'aujourd'hui encore il y a beaucoup de racisme encore aux États-Unis, même si heureusement on a dépassé ce cadre dans de nombreux États. Hein, mais j'imagine à l'époque ça devait être assez terrifiant de se dire qu'ils venaient combattre pour un idéal et que malgré ça ils étaient toujours mis de côté. Mais on peut aussi penser aux tirailleurs sénégalais pour la France qui ont aussi eu droit à cette forme de ségrégation. C'est une autre histoire peut-être pour un prochain roman. On rappelle hein, le titre de Donut Girl, hein, qui est l'histoire de Jen, hein, cette Américaine qui va donc entrer dans la guerre via la Croix-Rouge pour être bénévole, hein, pour permettre de remonter le moral des troupes. Elle va s'engager et elle va donc devenir ce qu'on appelle les Donut Girl, dont on parle très très peu hein, dans les livres d'histoire, et Dieu sait que c'est important de remettre la place de la femme qui est aussi a été très importante pendant la guerre. On parle des résistantes en France hein, et encore hein, c'est une histoire assez récente, et bien c'est l'occasion de remettre au cœur hein, de ces histoires pour les petites filles d'aujourd'hui, de savoir que leurs aïeules, elles ont aussi participé à la guerre à leur manière, et grâce à elles hein, on a gagné la guerre, on a été délivrée du nazisme. C'est aussi important de rappeler ce patriotisme, ce féminisme, hein, car les filles, elles étaient très soudées entre elles, et nous parler aussi de l'armée, hein, ces coulisses, hein, où vous parlez justement des Noirs américains, hein, et ce qu'ils faisaient notamment, et puis évidemment il y a ce filigrane, hein, de l'amour entre Jen, et on va pas en dire plus, mais c'est aussi une histoire qui est importante. Ça nous permet de poursuivre et de s'attacher un peu plus au personnage. Jen, elle est pas toute seule, hein, elle a d'autres collègues, hein, femmes, et on rappelle aussi le contexte, hein, c'est l'Angleterre bombardée, une ville méconnaissable, hein, pour celles et ceux qui étaient arrivés avant la guerre, et elle arrive donc au bout de plusieurs années de bombardement, une ville assiégée presque, j'ai envie de dire, tant les dégâts sont nombreux. C'est très détaillé, c'est très documenté. C'est un roman qui se lit d'une traite et dont on imagine les images, hein, la cinématographie de votre écriture nous renvoie donc... ce que l'on peut voir dans les films passés et peut-être dans un prochain film, une héroïne telle que votre Jane, ça serait assez formidable, surtout qu'on en voit peu, hein, de films de guerre avec des femmes héroïnes, et bien là, ça serait l'occasion. C'est paru aux éditions Les Escales. J'imagine que ce livre vous a donné là encore l'envie d'un troisième, d'un quatrième, d'une suite, ou pas du tout?
Oui, bien sûr. L'écriture, c'est un processus sans fin. Donc, j'ai effectivement un troisième qui couve. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire de femme méconnue. Voilà. J'en dirai pas plus. C'est encore un peu tôt.
D'accord. On peut juste imaginer qu'il sortirait en 2027.
Oh bah ça, je ne sais pas. Il
faut, d'accord.
Je vois les détails avec mon éditeur.
Très bien. Mais c'est bien amorcé, je veux dire. Vous avez déjà bien avancé,
ouais,
dans votre projet.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui.
Bon, bah, on va attendre avec impatience la sortie de vos prochains romans. Ça sera un roman également.
Oui, oui, tout à fait. Roman.
D'accord. Et
roman,
en attendant, on va se plonger dans Donut Girl. C'est paru aux éditions Les Escales. L'occasion de découvrir, hein, je rappelle, une histoire méconnue de la Seconde Guerre mondiale, celle de ces femmes américaines qui soutenaient, hein, leurs boys avec notamment ces fameux gâteaux typiquement américains, ces donuts qu'elles fabriquaient et qui remontaient donc le moral de leurs troupes. Et ça parle aussi de femmes, ça parle de patriotisme, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, ça parle d'amitié entre femmes, ça parle d'amour, ça nous ramène plus de 80 ans en arrière, ce qui d'ailleurs fait parfois écho, hein, avec ce que l'on vit aujourd'hui, hein, cette ambiance un peu particulière. On a peur d'une troisième guerre mondiale, et bien là c'est l'occasion de voir ce qui se passait, hein, sous les bombardements allemands à Londres. Merci à vous, Lauriane Bordenave. Alors on rappelle aussi que ce livre donc est paru aux éditions Les Escales. Je ne sais pas si vous, on peut vous croiser lors de rencontres, dédicaces dans des librairies ou des salons.
Alors, je vais être au salon de hier dans le sud fin mai, au salon Lire à Limoges en juin, et je serai en dédicace à la librairie L'Infime Comédie en juin, à Tours-la-Ville en juin, des petites dates comme ça, que je vais essayer de faire suivre sur Instagram pour la diffusion.
D'accord, donc vous êtes sur Instagram, on met votre nom. Ou le titre,
Lauriane Bordenave, tout simplement.
Et on vous retrouvera, très bien. Et puis sinon, on peut également aller sur le site des éditions Les Escales pour si on retrouve aussi votre actualité. J'imagine qu'elle sera également proposée. Bien, merci à vous, Lauriane Bordenave. Et puis, je vous souhaite un très joli succès autour de Donut Girl, un très, très beau roman qui, j'espère, mais vraiment, hein, je le souhaite, le voir sur petit ou grand écran. Je suis sûre que des scénaristes, producteurs vont vous contacter parce que c'est un petit bijou à lire et à découvrir aux éditions Les Escales. Merci à vous, au revoir.
Merci infiniment. Au revoir.
Au revoir. Et on retrouve notre second invité juste après ça. À tout de suite.
De ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale. Ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire: belle demoiselle qui se presse d'en aller, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Du milieu de ma rue, la silhouette comme un nuage s'éloigne sans un bruit, alors c'est grave. Ça se bouscule dans ma tête, l'épée à l'effet de plaire. C'est pas vraiment la fête, pourtant j'ai l'air de lui plaire. Qu'ai-je fait, oh bon Dieu, pour être fidèle à cet aveu? La belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Accessible comme une hirondelle. Je calcule dans ma tête, dopée à l'effet de plaire. C'est quand même la fête, le fantasme qui peut distraire. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Merci mon Dieu, mais je tire un trait sur cet aveu. La belle demoiselle sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
Belle demoiselle, oh non, qui se presse dans la liste, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
Et nous retrouvons notre invitée Claire Lecoeur. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un très joli album pour la jeunesse. Il s'intitule Les Petits Renards. C'est un album à retrouver aux éditions du Ricochet. Vous en avez fait les textes, si je ne dis pas de bêtises. Et les illustrations sont de Chloé du Colombier, que l'on salue de loin, car elle est dans un salon. Elle n'a pas pu être parmi nous pour parler de ce très beau, très bel album. Alors tout d'abord, Claire, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, présentant quelques mots auprès de nos amis auditeurs, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. Oui, moi je suis autrice et journaliste, journaliste scientifique. J'ai travaillé comme journaliste scientifique spécialisée en écologie au départ. Et maintenant, je fais surtout des livres pour tout âge, beaucoup de documentaires et voilà, des livres pour tout petit comme Les Petits Renards, et puis des livres pour les ados aussi, enfin depuis les tout petits jusqu'aux ados, sur plein de sujets, sur l'écologie, sur la nature, mais aussi sur des sujets un peu tabous, comme les règles, la mort, voilà.
Des livres donc pour tout public, si j'ose dire, car vous voulez que le plus grand nombre ait accès à de l'information, et de l'information vérifiée, car on va découvrir grâce à vous dans Les Petits Renards que le renard est un animal très social, très intelligent, et pourtant qui a mauvaise presse, entre guillemets, parce qu'on en a souvent peur, parce qu'il est censé porter des maladies telles que la rage. Or, il est très utile, et certains certains veulent le chasser. On a vu des reportages récemment, alors qu'ils ont une place importante dans les écosystèmes, dans la biodiversité, car ils nettoient un peu ou ils font le ménage lorsqu'il y a trop de nuisibles, notamment. En tous les cas, moi, c'est ce que j'en ai retenu sur les renards. Or, les enfants, c'est important aussi de leur rappeler quels sont ces animaux dans la nature. Ce sont ce sont plus que des peluches, hein. Ce sont des animaux qui ont...
Oui, en fait. Oui. En fait, il y a plusieurs choses, mais en effet, le renard, il est plutôt mal vu par beaucoup de monde. Surtout, il est classé nuisible encore aujourd'hui, et donc ça veut dire que, en fait, les chasseurs ont le droit de le tuer. Et c'est en effet problématique à plein de points de vue. Hein. On pourrait se baser sur à plein de niveaux différents, mais déjà d'un point de vue tout simplement d'écologue, bah en fait, chaque être, chaque espèce a une utilité de par même le fait qu'elle soit là. Et en effet, le renard, bah, c'est un animal qui est très intéressant parce que, notamment pour les rongeurs, en fait, c'est un régulateur des rongeurs. Et il y a beaucoup d'études, effectivement, qui essayent de regarder à quel point le renard favorise ou pas la prolification de certaines maladies, que ce soit même des tiques pour la maladie de Lyme, ou de différentes autres maladies. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si clair, effectivement, à quel point il serait propagateur de ces maladies. On peut pas affirmer ça du tout comme ça. Au contraire, il a plutôt des effets plutôt positifs à plein de niveaux.
Alors, dans votre album, dont on rappelle, hein, il est illustré par Chloé de Colombier, on part donc dans les bois, donc c'est vraiment le milieu, hein, où vit le renard, et on découvre qu'il laisse quelques traces par-ci, par-là, mais c'est plutôt des animaux, les renards sont plutôt discrets. Hein.
En tout cas, c'est un animal qui, effectivement, n'aime pas forcément trop se montrer. Il reste très prudent, en tout cas particulièrement près des humains, parce que c'est un animal qui est diurne, en fait. Hein. Il n'est pas du tout nocturne comme on pourrait le penser parfois. Il peut sortir la journée, mais quand il est près des humains, il le fait moins et il a plutôt tendance à sortir la nuit. Donc, il est parfois difficile à voir. Bon, quand on habite en campagne, on le croise quand même au détour des routes en général et des chemins. Et parfois dans les villes aussi, parce que en fait c'est des animaux qu'on retrouve maintenant dans des grandes villes comme Paris, comme Londres. Donc c'est un animal qui s'habitue très bien à des milieux différents aussi, parce que il est capable de manger énormément de choses très différentes, que ce soit, donc on parlait des petits rongeurs, mais aussi des fruits. Il s'adapte un petit peu à ce qu'il a. Il peut manger des insectes, il peut manger des vers de terre, voilà, il peut manger beaucoup beaucoup de choses très différentes.
Alors déjà, c'est ce que j'allais dire, c'est formidable, parce que dans l'ouvrage, vous avez, je parle à nos amis auditeurs, des coupes où on voit donc le renard qui est donc sur terre, évidemment, et on voit donc par une coupe transversale ce qu'il y a donc dans la terre avec ses vers, ses œufs de larves, etc. Et on voit le renard qui a un regard perçant, et alors qu'évidemment il ne voit rien, mais c'est grâce à ses oreilles, à son ouïe et à son odorat, qu'il sait qu'il y a quelque chose en dessous bon à manger.
Oui, en fait, il a un très très bon odorat et aussi une très bonne ouïe. Donc, il arrive à entendre des mulots, effectivement, dans les herbes assez loin de lui, mais aussi sous-sol, en fait, il arrive à repérer où sont les animaux sous le sol, et donc c'est comme ça, en fait, qu'il a justement un très bon taux de réussite de chasse, on va dire, parce qu'il est capable de repérer les mouvements des animaux même sous la terre, et donc ensuite il bondit, il a un bon trait particulier justement pour sauter un petit peu sur le mulot et l'attraper directement, et il a des taux de réussite vraiment incroyables à la chasse. Il a une capacité qui n'est pas liée que à ça, il a vraiment un sens aussi qui lui permet, on pourrait dire en fait, comme d'entendre les déplacements, qui n'est pas que lié à son ouïe, c'est aussi lié à une sorte un peu de perception de l'espace, quoi.
Alors, on découvre aussi dans Les Petits Renards, hein, l'album dont on parle, cette fameuse, ce saut, ce bond, hein, qui est de nouveau illustré. On voit aussi que c'est un animal qui a cette capacité de pouvoir changer de couleur selon la saison.
Oui, ça, on a aussi beaucoup joué avec les couleurs du renard dans cet album et je crois que Chloé était très contente de pouvoir montrer des renards un peu différents que le renard roux auquel on est habitué parce que tout simplement, il y a plusieurs couleurs de renards, alors pour des raisons naturelles et non naturelles, mais on peut rencontrer voilà des renards qui ont déjà des taches dans le pelage, mais aussi des renards qui sont plus noirs, qui ont des taches beaucoup plus noirs, beaucoup plus bruns, qui ont des mélanges avec presque comme des croix dans le dos. Donc, en fait, c'est beaucoup plus variable que ce qu'on imagine avec le renard habituel. Et effectivement, il y a son pelage qui change tout au long de l'année. Tout simplement, comme pas mal d'autres espèces, en fait, son pelage s'épaissit pour passer l'hiver, pour le tenir chaud. Et ensuite, il perd ses poils par gros paquets en fait au printemps. Et en fait, ses poils repoussent un peu sans arrêt. Il n'y a pas vraiment d'arrêt de croissance du poil pendant l'année.
Et c'est ce qu'on va donc découvrir. Vous rappelez également que ses cousins, ce sont les loups et les chiens qui n'ont pas cette même démarche très légère. On laisse nos amis auditeurs le découvrir. Et puis aussi la manière dont le mâle rencontre la femelle. C'est aussi tout un cérémonial, un mouvement comme ça, un frottement, ils se reniflent. Enfin, c'est ce qu'on découvre dans votre ouvrage. Et puis évidemment, on voit aussi le terrier, hein, là où ils vont les petits naître. Là aussi, c'est très bien dessiné. On voit cette coupe transversale où on voit qu'ils peuvent même, j'ai presque envie de dire, c'est très drôle, piquer le terrier qu'aurait fait un blaireau.
Oui, en fait ça c'est assez commun que les terriers soient réutilisés et les renards souvent ils creusent pas leurs terriers, ils récupèrent des terriers déjà faits. Et les terriers de blaireaux, ils sont très bien pour les renards. Ça arrive parfois qu'ils cohabitent. Alors ça peut bien se passer, ça peut moins bien se passer, mais souvent il y a des blaireaux qui peuvent être à une certaine hauteur du terrier et les renards à une autre hauteur. Et donc ça, c'est vrai qu'on pareil, on n'a pas trop cette image en tête et je trouvais ça intéressant de pouvoir le montrer. Qu'en fait cette cohabitation là existe et sur les odeurs en fait oui on n'en parle pas souvent non plus mais donc le renard a ce qu'on disait tout à l'heure un très odorat aussi et surtout il a une façon un peu de communiquer avec les autres renards par justement plein d'odeurs qui peuvent être de l'urine mais pas que, ça peut être aussi il y a une glande en fait qui est proche de l'urètre qui frotte avec lequel il frotte ça peut être des rochers des troncs d'arbres etc. et en fait ça indique aux autres renards qui est passé par là, est-ce que c'est un mâle, une femelle, est-ce qu'elle est en chaleur etc. etc.
Et on découvre également la vie hein, des petits. Vous expliquez, on va laisser quand même nos amis auditeurs le découvrir. On voit aussi que ça doit être la saison des naissances parce qu'il y a une illustration. On voit du muguet. Alors le muguet va arriver là incessamment. Ils sont déjà bien là. Ils sortent déjà au printemps. On est d'accord.
Oui, voilà, les petits sortent au printemps. C'est souvent aussi à ces époques que du coup les parents, les renardes peuvent chasser parfois des poules. On en parle souvent pour ça, parce que c'est l'époque où il faut nourrir plus de monde. Donc effectivement, les adultes vont plus chasser. Et donc oui, là on les voit. Alors après, comme les saisons changent pas mal, en vrai, moi j'ai déjà vu des renards depuis déjà quasiment un mois là, donc on peut en croiser parfois l'hiver aussi, mais c'est plus rare en effet. Mais dans nos régions quand même, on peut aussi en croiser. Mais donc là, c'est vrai que ça va être la bonne période en tout cas pour pouvoir voir des petits renardos.
Et quels qui sont mignons, mais on rappelle, hein, on s'en approche pas parce que ce sont des animaux sauvages. Puis il faut les laisser tranquilles, hein, on peut les observer de loin quel spectacle hein, de voir cette nature, parce qu'ils sont très curieux, ils sont très joueurs, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'illustration. Et puis on découvre aussi que il reste auprès de, enfin il reste en famille pendant un an ou deux, et puis après chacun part sur un autre territoire.
Peut partir, oui. En fait, ça c'est aussi hyper intéressant chez les renards, c'est leur capacité de régulation qui, justement, contrairement à ce que peuvent dire leurs détracteurs, en fait, les renards, les populations de renards se régulent en fonction de la nourriture présente. Et donc, s'il y a beaucoup de nourriture, les renards, ils vont pouvoir partir à l'aventure, découvrir de nouveaux territoires plus vite. Mais parfois, quand il n'y a pas assez de nourriture, déjà, il y a moins de petits qui naissent, mais aussi les renards peuvent rester plus longtemps avec les parents et former des groupes un peu plus gros pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ensuite ils puissent partir dans d'autres lieux. Alors donc ça c'est aussi hyper intéressant.
Donc Les Petits Renards, c'est un ouvrage paru aux éditions du Ricochet dans la collection Éveil Nature. Hein. On rappelle, c'est pour un public à partir de 3 ans, parce qu'il y a de très belles illustrations de Chloé du Colombier, mais un texte qui accompagne et qui peut être donc lu par un adulte ou un grand frère ou une grande sœur qui maîtrise déjà la lecture. C'est une manière de découvrir cette espèce hein, qu'est le renard, qui est dont on évoque vous parliez du voleur de poules, mais aussi dans les fables de La Fontaine, et que l'on découvre peut-être hein, pour petits et grands que ce sont donc des animaux très familles, ce sont des animaux parfois opportunistes, en tout cas très très malins hein, quand on peut découvrir qu'ils vont récupérer donc le terrier d'un autre animal. Ce sont des animaux qui mangent un peu de tout, mais qui sont aussi des très très bons chasseurs. Bref, un animal qu'il faut à tout prix protéger, même s'ils sont encore, vous le rappeliez, considérés comme des animaux nuisibles.
Oui. Oui, alors l'idée du livre, c'était donc cette collection s'adresse vraiment, comme vous le disiez, aux plus petits. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait un texte qui soit relativement court, un peu poétique, qui entraîne les enfants, un peu rigolo, pour que vraiment les plus petits découvrent aussi des choses qui soient vérifiées scientifiquement, mais qui soient accessibles pour elles et eux. Et c'est vraiment l'idée de cette collection.
Et Chloé du Colombier a fait un travail remarquable, où on retrouve ces très grandes illustrations, on voit le renard justement quand il se met en boule, ah, c'est magnifique, on a envie de le prendre dans les bras, mais c'est pas du tout l'objet, mais bon, c'est magnifique, les décors qui changent selon les saisons, on voit que ce sont des animaux vraiment adaptés hein, à cette vie en forêt, et puis près des villes, hein, des villages. D'ailleurs, on voit lorsqu'il y a les moissons, on voit donc des paysages hein, de campagne, et on voit aussi d'autres animaux qu'ils vont croiser dans cette nature très riche, avec de magnifiques couleurs, que l'on doit donc à Chloé du Colombier. Vous avez travaillé, vous aviez écrit les textes et Chloé a fait l'illustration. Comment ça se passe en fait, un travail sur un album comme Les Petits Renards?
Alors c'est effectivement Chloé, elle est habituée de cette collection et j'avais travaillé avec elle déjà sur Les Petites Chauves-Souris. Et donc là j'ai d'abord fait un premier texte qui a été retravaillé et ensuite avec Chloé on a discuté de qu'est-ce qui nous semblait intéressant justement de mettre en avant dans le livre, notamment en termes d'illustration, vous le disiez qu'on voit aussi des animaux qu'on ne cite pas mais qui apparaissent quand même pour qu'on comprenne alors à quelle époque on est, mais aussi un petit peu de l'environnement des renards. Il y a des choses qu'on montre avec l'illustration qu'on ne dit pas dans le texte pour que ça ajoute un petit peu d'autres éléments. Et donc ça c'est un chouette travail de le faire avec Chloé, d'avoir son regard aussi sur quelles espèces on pourrait mettre, que mettre en avant visuellement. Donc après on fait un travail ensemble et évidemment avec l'équipe d'édition, avec Nathalie, mon éditrice, et avec toute l'équipe du Ricochet. cocher, voilà, pour voir qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre en avant ou qu'est-ce qu'il vaut mieux ne pas dire, parce que parfois on peut pas tout dire, donc voilà, il faut faire des choix.
Et c'est très très réussi. J'invite nos amis auditeurs à aller sur le site des éditions du Ricochet, parce qu'on peut feuilleter quelques extraits. C'est éditionsduricochet.com. On peut également vous suivre, vous avez votre propre site, hein, clairelequeuvretoutattaché.com. Après ce titre, les petits renards, est-ce qu'il y a un autre titre qui va arriver ou dont vous êtes déjà au travail?
Oui, là, en ce moment, je travaille pour un autre livre, alors qui va sortir un petit peu plus tardivement et qui sera plutôt pour les adolescents. Et ce sera sur les masculinités.
Vaste sujet.
C'est quoi être un homme?
Et c'est très important. Si en plus vous êtes une femme pour l'écrire, ça va être une lecture, j'imagine, des plus riches et des plus pédagogiques, j'imagine, pour tous, hein, parce que finalement. Les hommes ont été des enfants et j'imagine que l'éducation de la maman est importante. Vous allez, j'en doute pas, l'évoquer. Et c'est un ouvrage qui devrait sortir, vous disiez
Il devrait sortir en janvier 2027.
D'accord.
Voilà. Et oui, effectivement, il y a tout un enjeu à comment on parle avec des témoignages d'adolescents et d'hommes aussi plus âgés, plus jeunes, pour discuter un petit peu de comment on devient homme dans notre société.
Eh bien, on attend ça avec impatience, Claire Lequeuvre. Pour patienter, on va découvrir l'album Les Petits Renards. C'est sorti aux éditions du Ricochet. C'est illustré par Chloé du Colombier, que l'on salue, qui a fait un magnifique travail. Et on peut donc vous suivre sur votre site, clairelequeuvre.com.
Instagram aussi.
Okay, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des rencontres à venir, des dédicaces?
Alors pas trop, parce que là je suis beaucoup au travail sur les mois qui arrivent, donc les mois qui arrivent, pour l'instant j'ai pas pris de rencontre. Voilà, j'avais besoin d'avancer sur plein de projets. Il y a deux autres projets en cours qui sortiront aussi en début 2027, et du coup il faut que je travaille pour l'instant.
Eh bien merci d'avoir pris un peu de temps pour évoquer Les Petits Renards, et puis j'ai envie de dire, peut-être dans quelques mois on pourra vous croiser à des salons livre jeunesse notamment, autour des petits renards, et on va laisser comme ça l'album être découvert par les lecteurs, et on va vous suivre donc sur les réseaux sociaux et sur votre site et sur les éditions du Ricochet pour suivre justement votre agenda, votre actualité. Merci à vous, Claire Lequeuvre, et puis à très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer, et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça. Ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme aussi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si. Je ne pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien de suivre mon chemin et de croire en mes mains? Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Les mots des livres. On parle maintenant du Petit Prince. Et oui, le Petit Prince, ce personnage tout droit sorti de l'imaginaire d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a touché des millions de lecteurs avec plus de 18 millions d'exemplaires vendus en France et des traductions dans plus de 650 langues et dialectes. Fête cette année ses 80 ans. Et autant vous dire que cette année anniversaire va mettre à l'honneur ce patrimoine avec l'universalité de ce récit et la créativité qu'il continue d'inspirer pour tout le monde. Alors vous allez avoir de très nombreuses sorties, de nouvelles éditions qui vont être notamment illustrées. Une qui vient de paraître en ce début du mois d'avril avec Mina Lima. C'est l'occasion de retrouver toute la beauté, la création d'Antoine de Saint-Exupéry. La Poste aussi va revenir avec des timbres collector, avec une édition spéciale de 700 000 exemplaires, un carnet collector, un cahier de vacances, beaucoup de choses autour de cet anniversaire. Il y a aussi la Monnaie de Paris qui va rendre hommage au Petit Prince avec cette année donc des mini médailles qui célèbrent l'univers du Petit Prince, le lancement d'une collection à partir de demain, le 14 avril, en série limitée. Vous avez aussi des grandes marques comme Berluti qui va proposer une collection capsule de maroquinerie inspirée du Petit Prince. Vous allez avoir les stylos Bic qui invitent à écrire et à créer avec des stylos 4 couleurs et cristal aux couleurs du Petit Prince. 100 000 exemplaires vont être proposés à la vente. Il va y avoir aussi même les sushi shops qui vont revisiter le Petit Prince, vous l'avez compris, à l'anniversaire assez exceptionnel. Et puis le parc du Petit Prince qui rouvre ses portes, qui a rouvert ses portes là en ce mois d'avril pour une saison des plus ambitieuses, car c'est, je vous rappelle, les 80 ans d'anniversaire. Vous avez beaucoup d'animations, donc vous l'avez compris, autour de cette œuvre de Saint-Exupéry. Alors vous savez, l'histoire, c'est l'histoire d'un petit prince qui vient d'une planète à peine plus grande que lui, sur laquelle il y a des baobabs, une fleur très précieuse, une rose qui fait sa coquette et dont il se sent responsable. Le petit prince aime le coucher de soleil. Un jour, il l'a vu 44 fois. Il a aussi visité d'autres planètes et rencontré des gens très importants, mais qui ne savaient pas répondre à ses questions. Sur la Terre, il a apprivoisé un renard, le renard qui est devenu son ami, et surtout, il a rencontré l'aviateur échoué en plein désert du Sahara. Et il lui avait demandé, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Un album qui évidemment a fait le tour du monde. La première publication remonte à 1943 aux États-Unis et la première en France, donc à 1946, donc c'est les 80 ans de la parution en France. Saint-Ex est né en 1900 à Lyon dans une vieille famille aristocratique, et il est décédé en mission, abattu dans son avion qu'il pilotait au-dessus de la Méditerranée le 31 juillet 1944. Si vous voulez en savoir plus autour du Petit Prince, de son auteur, vous avez un site qui lui est dédié, lepetitprince.com, le Petit Prince, tout attaché.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et avant de se quitter, je vous rappelle que nous étions avec Lauriane Bordenave pour Donut Girl, un roman fascinant sur ces femmes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, réconfortaient les boys en leur offrant des donuts et en animant donc à l'arrière. Et c'est formidable, c'est paru aux éditions Les Escales. Claire Lecoeuvre, elle est l'autrice des Petits Renards, un album pour la jeunesse, paru aux éditions du Ricochet, illustré par Chloé du Colombier. C'est aussi fascinant de découvrir ces petits animaux qui ont une vie très originale, très intéressante et qui ici nous est à la fois contée et illustrée de manière prodigieuse. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi cliquer sur le site des éditions du Ricochet. On se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. Merci encore à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site idfm98.fr. Et nous, on va se quitter en musique. Très belle soirée à vous. Au revoir.